Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute.
Avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire un truc de ouf. 75% d'entre vous ne sont pas encore abonnés au podcast sur les plateformes d'écoute telles que Apple Podcast ou Spotify. Si vous appréciez ce podcast, je vous serai extrêmement reconnaissant de vous abonner via votre application d'écoute favorite. Votre abonnement aide véritablement le podcast à se développer. Et plus vous êtes nombreux, meilleurs seront les invités. Un grand merci d'avance. Hello
everybody. Bonjour tout le monde, merci d'écouter The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Eric Tortensen. Je le prononce bien? Oui, c'est encore mieux avec l'accent français. J'ai hâte d'entendre ton accent français parce que tu viens juste de me dire que tu as un accent quand tu es à Paris. Pour commencer et nous mettre dans le contexte, où on est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est au Ritz. Tu es gentiment venu me voir dans ma chambre d'hôtel. On a la chance d'attendre que le room service vienne nous interrompre. Écoute, c'est ma première fois au Ritz et c'est incroyable. Oui, c'est le meilleur endroit de Paris. C'est sûr. Alors, pourquoi tu viens au Ritz, au fait? Plusieurs raisons. Ils sont très gentils avec moi, parce qu'on a eu une collaboration ensemble. Donc, j'ai l'impression de connaître les gens et ils sont sympas. Le propriétaire est un ami et j'aime bien ces institutions, les restaurants, les hôtels. Je n'aime pas ce qui est nouveau et à la mode. Bien sûr, c'est une chance et un privilège de séjourner ici, ce que je reconnais. Mais j'ai toujours aimé ces institutions et le service est génial. Et quand je suis ici, j'enchaîne les rendez-vous et c'est facile d'accès parce que c'est assez central. Oui, c'est une bonne raison. Ma deuxième question est, comment tu te présentes quand on te demande ce que tu fais? Oh mon Dieu, c'est une bonne question parce que ça a toujours été un petit problème. En ce moment, mon travail, c'est cofondateur et directeur artistique de Frame, qui est basé à Los Angeles depuis 10-11 ans. Mais ça prend plus de temps d'expliquer toutes les facettes de ce que je fais. Mais je pense que directeur artistique est un bon résumé. Oui, ça sonne bien, c'est excitant et sexy, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je veux vraiment comprendre comment tu es passé d'une ferme en Suède à New York City que tu as conquis il y a quelques années. Bon, pas vraiment, mais tu as lancé un grand business à New York, donc on peut dire que tu y as réussi. C'était un long parcours, mais comment tout a commencé? Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton enfance? Bien sûr, c'était une enfance heureuse. J'ai grandi, comme tu l'as mentionné, dans une ferme à 1h30 de Stockholm. C'était une vie très simple. Pas facile, mais simple. J'ai des parents fantastiques. Mais je me suis toujours senti différent. Parce que traditionnellement, tout le monde faisait la même chose, du football, par exemple, alors que je faisais de la danse et du skateboard. Mes parents m'ont inscrit à un cours de danse swing compétitif. J'ai été champion de Suède junior 2 fois. J'en faisais 5 fois par semaine pendant des années. Et comment cela t'a façonné? Alors c'était de l'exercice et c'était créatif et intuitif. Et j'adorais ça. Le skateboard aussi, qui est comme toutes les professions créatives. C'est une activité individuelle, mais tu peux aussi le faire avec d'autres personnes. Mais j'étais vraiment pas bon en skateboard. Mais ça m'a amené vers le graphic design parce que pour traîner avec les gens cool, j'ai commencé à les prendre en photo et à leur faire des logos. C'était un moyen de m'intégrer parce qu'il n'y avait pas beaucoup de skateboards à la ferme. Donc je n'étais pas prédisposé à réussir dans ce milieu. Même ma mère me disait, si je ne savais pas d'où tu es venu, j'aurais pensé que tu étais adopté parce que j'étais très différent du reste de ma famille. Tu as des frères ou des sœurs ? Non, je suis fils unique. Aussi, ma mère me disait, c'était déjà dur de me gérer seul, parce que avec ma personnalité, dans une ferme, dans les années 80, sans internet ou télévision, il n'y avait pas grand-chose à faire. Mais tu aidais tes parents à la ferme, n'est-ce pas ? C'était un élevage de porcs, non ? Oui, oui, je peux conduire un tracteur, m'occuper des champs, tout ça. Mais je n'avais aucun intérêt pour ça. Même mon père me disait de ne pas me lancer dans l'agriculture. Il avait hérité la ferme de son père à lui et m'encourageait à ne pas faire pareil. Ce n'est pas le meilleur mode de vie. Quel était ton rêve ? Je rêvais d'être skateboarder pro, mais ça n'a pas marché. Je rêvassais beaucoup, parce que la meilleure chose que j'avais quand j'étais enfant, c'était l'ennui. Aujourd'hui, personne ne s'ennuie, et l'ennui est un catalyseur de créativité. Et je rêvais d'aller dans des endroits, de voir des choses, d'aller à Stockholm ou de voyager, d'expérimenter des choses. Et puis quand j'ai pu mettre la main sur des magazines, et encore une fois, c'était il y a longtemps, ce n'était pas si facile de s'en procurer. Je me souviens d'un numéro d'Arena One Plus, il y a longtemps, et je crois que le titre c'était « Le roi des magazines ». Et il y avait une ligne jaune sur la couverture, et ma vie a changé. J'étais obsédé par les magazines, la typo, les photos, la lecture, tout. Je m'échappais grâce aux magazines, je les collectionnais comme un fou, je passais des heures à les lire et à apprendre. Donc j'ai commencé à rêver de ce monde. Mais encore une fois, il n'y avait pas d'internet, pas de réseaux sociaux, donc c'était un monde très fermé et on ne savait pas comment y accéder. Et puis j'ai découvert le design graphique par hasard et je suis devenu obsédé. Notamment grâce à l'Apple Mac, parce que je ne savais pas dessiner, je n'avais aucun talent naturel. Donc le Mac a été un outil qui m'a permis de résoudre ce problème. J'étais fasciné et ça m'a débloqué en quelque sorte. Je n'étais pas bon à l'école jusqu'à ce que j'aille dans ce programme médiatique au lycée dans lequel enseignait ce très bon professeur qui m'a fait découvrir Photoshop, les différentes caméras, et tout était très excitant. Toutes mes notes se sont améliorées, l'anglais, les maths, tout. Mais je suis surtout devenu obsédé par le design et la typographie. Et j'étais tellement en manque d'informations, je cherchais partout, pour tout, tout le temps. Même pendant les vacances d'été, j'ai emprunté un Mac pour l'avoir à la maison. J'avais pris la clé de l'école pour y avoir accès après les cours. J'en voulais toujours, toujours plus. Et à l'âge de 16 ans, j'ai été débloqué, pour ainsi dire. Et puis j'ai commencé à rêver de devenir graphic designer. Et qu'est-ce que tu as fait pour accomplir ça ? Beaucoup de choses. J'essayais d'apprendre nuit et jour, c'était une obsession. Et puis l'internet est arrivé, d'abord très lent. Et j'essayais d'apprendre et d'apprendre, d'essayer encore et encore. J'ai essayé d'obtenir un peu d'expérience professionnelle dans les agences. Je me souviens avoir écrit 200 lettres manuscrites à toutes les agences suédoises. Je n'ai pas reçu une seule réponse. Mais j'étais vraiment passionné, je lisais tout, je suis allé à Stockholm pour trouver du travail. Avec ma première copine, on a pris un job de transporteur en roller parce que l'entretien pour obtenir le job, c'était d'aller dans une agence de pub à Stockholm. Je ne voulais pas ce travail. Je l'ai juste pris pour voir à quoi ressemble une agence de pub. C'est fou, mais c'est ce genre de choses qu'il fallait faire. Est-ce que tu as fait des études ? Non, juste le programme média au lycée. Et puis j'ai réussi à trouver du travail. Et encore une fois, ce n'était pas une agence du haut du panier, c'était une personne qui m'a donné une chance, ce pourquoi je leur suis très reconnaissant. Il y avait cette agence à Stockholm qui s'appelait Trendsetter et qui ne comportait que deux personnes. J'y ai travaillé en freelance, je designais des menus pour des restaurants d'entreprise, mais j'étais très fier et très content. Je prenais le train tous les jours, 1h30 aller-retour de la petite ville où j'habitais. J'ai acheté un petit costume et j'ai fait ça pendant un an. Et puis, je me suis inscrit dans une école qui s'appelait RMI Bergs, un peu comme St. Martin's. C'était une école artistique à Stockholm avec un cursus d'un an en direction artistique de magazine. Je ne pensais pas pouvoir passer les tests, mais j'ai réussi à entrer. J'étais le plus jeune jamais inscrit à l'époque parce que j'avais ce rêve de travailler pour un magazine. Je travaillais tard, je prenais le train tous les jours parce que je ne pouvais pas prendre d'appart à Stockholm. Et plus j'avançais, plus je me retrouvais avec des gens similaires à moi qui partageaient ma passion. Donc je me suis retrouvé dans le milieu, mais aussi beaucoup de gens dans cette école n'étaient pas très ambitieux. Et pour moi, c'était une question de vie ou de mort. Je me devais de me donner à fond. Et puis, il y a eu ce moment décisif où un certain Tyler Brûlé est venu donner une conférence à l'école pour parler de Wallpaper Magazine. Il aimait beaucoup le design suédois, mais je ne connaissais pas trop son magazine, qui était pourtant à son apogée à cette époque. Wallpaper était au top, Tyler est toujours très important dans le milieu.
Oui, il est génial. À l'époque, c'était toujours plus ou moins le début de Wallpaper, mais il était obsédé par la Scandinavie. Et j'ai été très inspiré par sa conférence. Il a parlé du développement de la marque. Et à l'époque, je travaillais sur mon projet de fin d'année. Projet qu'il a beaucoup aimé. Pour résumer, il y avait ce talk show en Suède, un peu comme Jimmy Fallon ou Letterman, qui s'appelait Senkval Medluk. Si Madonna venait en Suède, c'était à cette émission qu'elle allait. Donc c'était cool et jeune. Donc j'ai pensé que ça pouvait être une bonne marque à développer avec un magazine et du merchandising construit autour. Et ça lui a plu. Donc on est resté en contact. Et puis, bizarrement, j'ai changé d'avis pour ma présentation finale, ce qui a été une terrible erreur. Mais j'ai appris pendant tout ce processus à travailler avec des photographes, des stylistes et des commissions, ce qui était très stimulant. Et donc, Tyler Brûlé est venu assister aux présentations de fin d'année et il allait distribuer des prix aux gens de la classe et je n'ai pas gagné. J'étais très triste, je voulais absolument y arriver. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que j'étais allé faire un stage de 2 semaines à Wallpaper, ce qui était génial, et je savais que je voulais travailler là-bas, mais je n'ai pas gagné. Donc Tyler m'a pris à part et m'a dit, ils ont gagné les prix mais tu as eu le job. Il m'a dit, tu peux venir à Londres dans 2 semaines pour commencer à travailler pour Wink, ma nouvelle agence. Et j'ai pleuré, pas devant lui mais dans cette grande rue à Stockholm. J'ai crié tellement j'étais heureux de réaliser ce rêve. Je lui étais très reconnaissant. C'était que pour quelques mois pour commencer, mais ça a duré 20 ans, à Londres. Il m'a donné ma chance à Wink Media, aujourd'hui Wink Creative. Il n'y avait que 2 personnes dans l'agence. Wallpaper était très populaire, mais c'était vraiment le tout début. Tous nos clients venaient de Wallpaper, et Tyler croyait vraiment en la jeunesse et l'esprit d'entrepreneuriat, et j'ai beaucoup appris de lui. Qu'est-ce que tu as appris de Tyler et de Wink? J'ai appris à travailler dur. Je travaillais comme un fou. Quand les gens me demandent quel est le secret ou me demandent un conseil à donner aux jeunes, je dis toujours « travaillez dur ». Ne vous plaignez pas autant, soyez plus sympa et un peu plus rapide. Il n'y a pas de secret. Je n'ai pas pris un seul jour de congé pendant 7 ans. Il m'a appris à être perfectionniste et entrepreneurial. Il m'a appris à comprendre les marques et le branding, à les explorer et à les développer. Il m'a appris à avoir une vision globale et de ne pas avoir peur de faire des choses. Il m'a appris à croire en la jeunesse, comme il l'avait fait avec moi, en me donnant cette incroyable opportunité.
Quel âge avais-tu ?
J'avais 19 ans quand j'ai déménagé à Londres. Et tu travaillais pour quelle marque ? Alors c'était fou, j'ai fait le logo de Stella McCartney il y a 20 ans quand elle lançait sa marque. On a redesigné Swissair pour qu'il devienne juste Suisse. Bien sûr, j'étais pas le designer principal, c'était Tyler, mais je faisais partie de l'équipe. On a voyagé partout dans le monde. On est allé dans ce centre commercial de mode au Koweït, Villa Moda. On a fait des campagnes de pub pour Times Magazine. On a fait plein de choses parce qu'il faisait confiance aux jeunes. C'était comme aller dans une superbe école où tu étais payé pour voyager et apprendre de cet incroyable leader. C'était des années formidables, vraiment géniales, mais je travaillais beaucoup. Une fois, j'étais rentré en Suède pour Noël et il m'a appelé, il m'a dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. » « Ok, bah, c'est quoi la mauvaise ? Il faut que tu sois en Suisse demain. » J'étais genre « Mais je dois être avec ma famille demain pour Noël. » La bonne nouvelle, c'est qu'on devait pitcher le projet de redesign de Swissair, ce qui était mon rêve, parce que je suis obsédé par la typo Helvetica. C'était super de travailler pour quelqu'un d'aussi accompli, qui a beaucoup de connaissances et une éthique de travail non égalée. Il travaillait très dur. Et je m'étais fixé de ne jamais quitter le bureau avant lui. Et puis, si tu restes tard, il peut y avoir un dîner, et tu rencontres des gens. Ça m'a donné beaucoup d'opportunités. C'était des années très formatrices. Et il y avait aussi beaucoup de gens formidables qui travaillaient avec nous.
It was an incredible, like really formative time. And there was a lot of other amazing people there, you know.
So you stayed there for 4 years?
Donc tu es resté 4 ans à peu près, tu es parti à 21-22 ans.
So you left.
Je crois que j'ai quitté quand j'avais 23 ans.
I think I left when I was 23.
Yeah.
It's also where I met Jens.
C'est aussi là que j'ai rencontré Jens, mon associé de toujours. On a beaucoup travaillé ensemble quand on était chez Wink. Et puis, on avait un rêve en commun de travailler plus dans le monde de la mode. On admirait les magazines de mode, les photos. Et notre première idée, c'était de travailler avec Fabien Baron ou quelqu'un d'autre à New York parce que toutes les grandes agences étaient là-bas. Donc Baron Baron, Doc Lloyd, par exemple.
Baron Baron, Trey Laird and Partners, and Doc Lloyd, for example.
Fabien Baron était très populaire. Je vais bientôt l'interviewer, d'ailleurs. Bah, c'était mon idole. Je l'ai aussi reçu pour un entretien avec Industry Magazine. Bon, donc on avait ce rêve. On est allé à New York sans connaître personne, sans contact. Jens avait quelques contacts, mais on n'a même pas pu obtenir un seul rendez-vous.
Jens knew his PA or something through someone maybe, but we couldn't even get a meeting. We got to like hand in our book and then we.
Et Jens, qui est plus courageux que moi, c'est un peu énervé.
Jens, who's more brave than I am,
et il me fait, il y a pas moyen d'avoir un rendez-vous. On va monter notre propre agence. Donc on était assis dans un resto à New York et on décide de lancer Saturday. On avait 24 ans, ce qui est dingue.
When we were 24.
Oh my goodness.
It was just
crazy.
It was so naïve.
J'étais très naïf à tous les niveaux, mais la naïveté m'a vraiment souvent aidé, bizarrement. Parfois, quand on ne sait pas comment les choses se font, on les fait différemment et ça peut payer parfois. Donc on a quitté Wink pour mettre en place Saturday.
Okay.
Qui était votre premier client?
Alors, on n'avait pas de client au début, c'était ça le problème. Parce qu'on a appris rapidement qu'on avait été gâté. Quand on travaillait pour Wink, on pensait tout faire, mais ce n'était pas nos clients, c'était les clients de Tyler qui l'avaient mérité. C'était facile pour nous, Tyler était une superstar. Et puis, tu te réveilles lundi avec ta propre agence et personne n'appelle.
And then you wake up in the morning, Monday morning, and you have your own agency. And like, you know, I was nobody. I have no connection. No one calls.
On n'était personne. Deux Suédois dans l'East End londonien qui travaillaient dans un appartement.
East London suddenly working out of an apartment.
Je me souviens vouloir travailler jour et nuit, et puis à 3 heures de l'après-midi, on n'avait plus rien à faire. Mais le premier client qu'on a eu, c'était Liberty of London. On a travaillé gratuitement et on leur a fait des coffrets cadeaux, quelques designs et une séance photo avec Dan Tobin Smith, qui est photographe de nature morte. On a commencé à peu près en même temps avec lui. Mais c'était super, on était jeunes, on travaillait dans un appartement dans lequel on n'avait pas le droit de travailler et duquel ils ont essayé de nous virer d'ailleurs. Et puis on a eu une grosse opportunité, on était presque à court d'argent. On était à deux doigts de chercher du travail parce que ça ne fonctionnait pas. La trajectoire aurait pu être très différente, c'était une question de semaines. Et puis la Suède nous a sauvés parce qu'on a eu la chance de pitcher un projet de publicité globale pour H&M, ce qui était déjà un rêve en soi, et on a gagné l'appel d'offres, et on a fait une campagne de pub qui a eu beaucoup de succès. Et ça nous a débloqué. On était si près de l'échec, et puis la campagne a duré 10 ans. Et dans cette industrie, dans laquelle je ne suis plus, il est possible de travailler pour deux compétiteurs en même temps, parce que s'ils aiment ce que tu fais, ils t'embauchent. Donc, une chose entraînant l'autre, Saturday s'est développé de plus en plus.
Saturday, which is what's called, grew more and more.
On travaillait la plupart du temps avec des marques de mode, beauté, un peu de branding, direction artistique et campagne pub. Et puis on s'est rendu compte que les agences à l'époque vivaient en cercle fermé et qu'ils snobaient le numérique. C'était comme le e-commerce, c'était un truc à part. Mais vu qu'on était plus jeunes, pour nous, il fallait que ce soit intégré. Il fallait qu'on le comprenne. Donc on a fondé Wednesday, une agence à part qui s'occupait du digital. Et Jens, qui est un super entrepreneur, s'est rendu compte qu'on travaillait avec toutes ces agences de relations presse qui nous disaient quoi faire, et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'on ait la nôtre. On obtenait tous ces budgets de production pour les séances photos de nos clients qu'on donnait aux entreprises de prod, alors on s'est dit qu'il nous en fallait une, et c'était malin. On a alors commencé à développer le groupe Saturday pour avoir plusieurs entreprises dont on était les propriétaires avec les fondateurs et les dirigeants de ces entreprises. Donc ils les géraient indépendamment. Est-ce que c'était habituel à l'époque? Pas vraiment, c'est de plus en plus fréquent, mais traditionnellement non. Le groupe était composé de Saturday et Wednesday, regroupés sous l'égide de Tomorrow, qui est un grand showroom et une entreprise de distribution. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de plusieurs marques. Donc vous faisiez partie de Tomorrow. Oui, et puis il y avait RMO, une agence de relations presse qui faisait les shows à Londres, qui était super, et ITB, une agence de talent qui s'occupait des acquisitions de talent pour les grandes marques, mais aussi des influenceurs. Mais on avait aussi une entreprise de production qui s'appelait N Production, et puis on avait aussi le magazine qui publiait régulièrement, ce qui était plus amusant qu'autre chose, mais c'était bien. On avait un écosystème qui s'entraidait, on se recommandait les clients l'un l'autre, donc tout ça était très bien. Donc différents noms, mais tout le monde savait que ça faisait partie du même groupe. Exactement, oui. Est-ce que tu peux m'apprendre comment construire une bonne entreprise de production, une bonne agence de relations presse? Quels sont les bons conseils? Alors, pas vraiment. Il faudrait que tu demandes aux gens de ces agences. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ce sont eux les experts. Je suis bon à peu de choses, vraiment. Tu es bon dans quoi? Oh, je sais pas. Mais plus je vieillis, plus je suis au fait de ce en quoi je suis bon et vice-versa. Je ne peux pas gérer une boîte de prod. Ceux qui gèrent et ont fondé la boîte savent très bien le faire, mais peut-être que c'était bien pour eux de faire partie d'un grand groupe quand il s'agit de l'administration ou de l'organisation globale de notre mafia, entre guillemets. Et tout le monde est suédois ? Non, 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 non. Personne à Paris, c'est moi. Mais si je devais résumer un peu tout ça, nous étions peut-être pas naïfs, mais on n'avait pas d'appréhension. Comme je te le disais plus tôt, je n'ai pas de talent inné, je n'excelle pas à une seule chose. Mais la somme de mes compétences explique pourquoi je fais beaucoup de choses différentes. Et c'est aussi ce qui fait un bon directeur artistique aujourd'hui, la somme de tout. Il ne s'agit pas de ne faire qu'une seule chose. Et je pense qu'on n'avait pas peur de fonder l'agence à 23 ans, ce qui était très jeune à l'époque. Pas aujourd'hui, mais à l'époque, oui. On n'a pas eu peur de lancer d'autres entreprises autour de l'agence. Quand j'ai commencé, si j'avais le titre de graphic designer ou directeur artistique, ça dérangeait beaucoup les gens que je veuille aussi être le photographe. Parce qu'on restait sur nos plates-bandes à l'époque. Aujourd'hui, c'est différent. C'est drôle parce que je viens de croiser Anya Rubik hier soir. C'est une mannequin formidable avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et c'est la première personne que j'ai photographiée. Et on en parlait hier, le client n'avait pas un gros budget de production, mais on avait besoin d'un bon modèle, donc j'ai appelé Anya. Parce que ma photographie ne sera pas parfaite, mais Anya est tellement talentueuse que ça va le faire. Je dis toujours, tu peux ne pas aimer ce que je fais, mais ce sera adéquat. Et si tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, je vais définitivement le faire. Donc si l'industrie me dicte que je ne peux pas faire quelque chose, je vais le faire. Et puis quand je suis devenu directeur artistique, on a travaillé pour des magazines, Condé Nast spécifiquement. Parce qu'en tant que directeur artistique d'une agence, c'est bien d'avoir quelques magazines dans ton portfolio. Et je me suis rendu compte que je ne décidais de rien, c'est le rédacteur en chef qui décide. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est juste que je veux essayer de le faire moi-même et d'apprendre. Donc Jens et moi avons décidé de lancer notre propre magazine. On l'a fondé avec un gars qui s'appelle Hugues pour pouvoir être rédacteur et co-directeur. Et c'était super fun parce qu'on a pu commencer à raconter une histoire et à contrôler l'esthétique. Les gens nous ont dit de ne pas nous lancer là-dedans, mais pourquoi pas, t'es pas obligé d'aimer, c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc on a lancé Industry Magazine à cause de l'interdit. Pareil pour Frame, les designers de mode nous ont dit qu'on ne pouvait pas lancer notre marque de vêtements, mais pourquoi pas? Je ne comprends pas pourquoi les gens s'imposent ces limites. Je pense que le système de la mode est basé sur ces petits royaumes de compétences que les gens défendent. Et je ne pense pas que ce soit encore le cas aujourd'hui, je pense que les gens ont peur. Mais je pense aussi qu'on est tous bons dans différents domaines. Écoute, j'aurais adoré être un extraordinaire peintre et être consistant toute ma vie, mais ce n'est pas ma personnalité. Donc je dois me reposer sur ce que je peux faire et sur ce qui me va. Et peut-être que ça ne correspondait pas à l'organisation du système, mais je crois qu'il faut savoir évoluer et changer. Et je ne veux pas être publicitaire à 55 ans. Je pense que les marques progressent par chapitre, la vie aussi. Il faut continuer d'avancer, sinon on peut facilement stagner. Écoute, j'ai 45 ans, et je comprends que pour certaines personnes, si on n'évolue pas, on peut facilement devenir ennuyeux. Quel est le bon moment pour évoluer quand tu commences à t'ennuyer? Tous les 5 ans, tu te réinventes. Il faut tout le temps considérer la réinvention ou au moins l'évolution. Ou au moins commencer un nouveau projet. Oui, et essayer de se divertir avec ses projets. Frame existe depuis 10 ans, mais j'ai fait d'autres choses pour ne pas m'ennuyer.
But I also do other things. So I don't get bored with fame anyway.
Of course.
Tu n'arrives pas à te contenter d'une seule chose. Non, le TDAH est très fort en moi. Ça me donne des super pouvoirs, mais c'est aussi un défi, notamment pour aller au bout des choses. Alors je peux faire tout un podcast sur ces défauts. Pourquoi tu as arrêté Industry Magazine ? Oui, c'est très simple. On a commencé parce qu'on est fan de l'industrie en général. Je dirais Jens aussi parce qu'on en a beaucoup parlé. Parce qu'on venait de Suède, on se sentait outsider. Et j'aime bien être sous-estimé. Ça me fait travailler plus. C'est un peu comme la campagne de pub Avis, tu sais. Il y avait Hertz, l'entreprise de location de voitures, qui était numéro 1 aux États-Unis. Et la campagne d'Avis, c'était « On est le deuxième, donc on travaille plus dur ». J'ai toujours aimé ce slogan. Et je pense que ça résume pas mal la mentalité suédoise. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de talents qui viennent de Suède. Mais on était fans de l'industrie et je pense qu'il n'y a pas de mal à admettre ce qu'on est, des fans. On voulait aussi rencontrer nos héros et on s'est rendu compte que les gens dans l'industrie de la mode préfèrent les rédacteurs en chef plutôt que les publicitaires. Donc si tu es rédacteur, tu es important. Donc le magazine, c'était une façon intelligente d'accomplir cela. Et c'était super, on a commencé à rencontrer nos idoles et c'était génial, très fun, j'ai adoré le faire. On l'a conçu plus grand que le scanner, donc il n'était pas disponible en ligne, le magazine. On était très lent, on ne photographiait pas les collections courantes, on n'avait pas d'annonceurs, ça n'était que du coup. Mais comme on avait l'agence et les autres entreprises, c'était un budget marketing en quelque sorte. Je pense que c'était intelligent de le faire pour nous donner un profil. Mais néanmoins, juste parce qu'on l'a fait, et que c'était fun, ne veut pas dire qu'il faut continuer de le faire ad aeternam. Le timing était bon, parce qu'à ce moment-là, les rédacteurs sont devenus des stars. On avait Anna Wintour sur la couverture du premier numéro.
Okay.
Comment tu l'as convaincu ? On ne l'a pas convaincu, j'ai juste pris une image sur Getty et je l'ai retouchée. Gorilla style. Mais après, elle m'a envoyé une copie signée avec marqué « Bien joué Anna » et je l'ai toujours. Mais après 7 numéros, et puis pour le dernier, on s'est demandé qui est-on curieux de connaître ? Et personne nous est venu à l'esprit. C'est là qu'on s'est dit que peut-être qu'on n'avait plus de l'énergie ou les idées pour continuer. Au même moment, Instagram s'était installé et tous les gens qui étaient des énigmes et difficiles d'accès sont devenus instantanément accessibles. Je raconte toujours l'histoire, mais on a fait une séance photo avec Marc Jacobs en drague dans son placard, et soudainement il s'est mis à poster tous les jours sur Instagram. Donc ce qu'on pouvait offrir d'excitant et d'exclusif avec Industrie est devenu obsolète. Donc il n'y avait plus de but. Et je pense qu'on a aussi un peu perdu d'intérêt et qu'on en avait d'autres. Et deux personnes qui ont énormément contribué au magazine, Alexia et Elisabeth, sont parties fonder System Magazine, qui est bien meilleur qu'Industrie ne l'a jamais été. Mais c'est parce qu'elles ont cet intérêt et le temps. Nous, on devait se reconcentrer sur nos vraies entreprises, et c'est pour toutes ces raisons qu'on a arrêté. Quand est-ce que tu sais qu'il est temps d'arrêter ? Quand on est plus motivé, je pense. C'était un luxe pour nous parce que c'était pas notre activité principale. On pouvait arrêter quand on voulait. On a toujours voulu avoir des projets excitants et un peu plus libres. Et Frame a remplacé Industrie. Quelle est la genèse de Frame ? Au début, on était en contact de tous ses clients et fondateurs. Tu sais, on a travaillé avec Rémi Ruffino, M. Bernard Arnault en tant que publicitaire créatif, et on n'y connaissait rien en production. On a lancé Frame pour en apprendre plus sur le produit, pour pouvoir mieux conseiller nos clients à l'agence. Au début, on n'avait qu'un seul jean. On a rencontré un gars à Los Angeles qui pouvait concevoir des jeans. Et si on avait rencontré quelqu'un qui faisait du cachemire, on aurait eu du cachemire. On n'avait pas de stratégie. Frame n'aurait jamais dû fonctionner. On travaillait à Londres, Frame était basé à Los Angeles. On travaillait sur d'autres choses, mais on l'a fait quand même. C'était l'anarchie pendant un moment. C'était assez aléatoire. On n'avait pas cette sorte de lien naturel avec nos activités précédentes. Frame s'est fait en plusieurs étapes. La première, c'était de faire une paire de jeans et de les commercialiser pour la vente en gros. Et c'est tout, ça a marché. C'était aussi beaucoup de chance et un bon timing. Mais pourquoi ça a marché? On m'a dit plus tard que c'est parce que c'était disruptif dans le secteur du denim haut de gamme dont je ne connaissais même pas l'existence, on l'a juste fait. Comment était le marché à l'époque? Est-ce que vous avez au moins fait une étude de marché? Non, jamais. Mais j'avais une idée de ce à quoi ça devait ressembler parce que je posais beaucoup de questions aux gens autour de moi, ma copine, les mannequins, les stylistes avec qui on travaillait. On leur demandait « qu'est-ce que vous attendez d'un jean ?»« Oui, mais ce que tu ne nous as pas encore dit, c'est que tu as aidé à lancer Mr. Porter, donc tu connaissais le marché. » Oui, on a travaillé avec tous les clients dans le monde et Net-a-Porter était un client. Oui, mais ce que tu ne dis pas, c'est qu'une marque ne vend pas un produit, mais une image et du sex appeal. Ce que j'ai appris, c'est que tout commence avec le produit. Et après, tu peux construire le reste autour. Mais si tu n'as pas le produit, tu n'as rien à rendre sexy. Avant que je me lance dans la production, je pensais effectivement qu'il s'agissait plus de tout le reste. Ça a été mon erreur parfois. Mais pour Mr. Porter, pour répondre à ta question, je ne peux pas m'accorder tout le crédit. C'était une idée que j'ai eue, que j'ai partagée avec Nathalie Massenet, après qu'on ait fait ensemble GQ Style Men, About Town. Je ne suis pas très bon pour éditer un magazine de mode masculine parce que je m'en fous un peu de la mode masculine. J'aime bien le men's style, mais il n'y avait pas moyen d'acheter ça en ligne. Donc j'ai eu une idée de ce à quoi Mr. Porter pouvait ressembler et j'ai apporté cette idée à Net-a-Porter et à Nathalie et puis on l'a accompli et on l'a acheté. J'ai travaillé pendant un an et demi, jour et nuit dessus, on a développé une équipe et tout, mais c'est l'entreprise qui a réussi à en faire un succès. Bien sûr, on a travaillé sur les bases, mais c'était un projet incroyable. Dans une carrière, je pense qu'il y a des moments importants, comme mes années de carrière en agence, peuvent être résumées en quelques succès, même si on a fait plus de 500 projets. Des succès comme la campagne de Justin Bieber et Calvin Klein, Mr. Porter a été important, l'industrie était excitante. Je me souviens bien de tout cela. Je ne sais pas si j'ai fait autre chose d'aussi bien. Quels ont été les accélérateurs durant ta carrière? C'est une bonne question, mais je ne pense pas qu'on ait eu beaucoup d'accélérateurs, notamment parce que ça fait longtemps que je travaille. Mais je pense qu'être ouvert au changement et mes années d'agence avec Jens ont été très importantes. Jens nous poussait continuellement vers la nouveauté et à ne pas avoir d'appréhension. J'aurais pu facilement concevoir des pochettes de vinyle gratuitement toute ma vie. Donc je pense que la contribution de Jens a été très importante. C'était une bonne combinaison de yin et de yang. Un équilibre entre l'art et le commerce et l'intérêt pour la culture populaire. La volonté aussi de se réinventer tout le temps et de ne pas avoir peur du changement. Souvent, les gens ont peur de se lancer. J'ai eu des conversations où quelqu'un me dit « Je pense prendre ce job ou faire ça, juste fais-le. » Oui, mais c'est une grande entreprise, fais-le. Personne ne va te remercier d'avoir attendu. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de toi, de moi, il faut juste le faire. Et après, il faut se poser la question, pourquoi je fais ça, comment je le fais, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Il faut aussi savoir que j'ai fait plein d'erreurs, mais il faut essayer d'en faire plus et de ne pas avoir peur de l'échec. Surtout à notre époque, il faut avancer et passer à autre chose.
Mm.
On n'en parle plus trop en ce moment, mais juste après avoir lancé Frame, on a créé une autre entreprise qui s'appelait Grace et qui vendait des petites robes noires. On a fait tout un défilé à Londres avec des mannequins et tout, mais le produit n'était pas bon et ça a été un échec. Mais on a beaucoup appris. Donc si on n'avait pas fait ça, Frame n'aurait sûrement pas fonctionné. Ou d'autres choses auraient souffert, donc c'est important de faire. C'est ta devise, ça, faire, faire, faire? Oui, en quelque sorte. Avant de revenir sur Frame, j'aimerais savoir comment tu as choisi tes sujets, tes projets. Qu'est-ce qui te motive depuis 50 ans? Pardon, 45 ans. Je pense que les premières années, c'était plus dormir, manger et changer la couche. Donc on va dire 30 ans. Je pense que si on est créatif, il faut créer. J'aime voir le résultat d'une idée que j'ai eue. Ce qui est magique avec la créativité, c'est que ça ne vient pas de nulle part. On parle beaucoup de l'IA, mais on est de l'IA. On est tout ce qu'on a vu et fait. Je pense que les projets se présentent à toi si tu essayes plusieurs choses différentes. J'ai souvent eu des conversations sur un sujet ici et là, à parler de nouvelles choses, et parfois quelque chose colle et on peut en faire quelque chose de nouveau. Néanmoins, je travaille sur beaucoup moins de projets désormais, mais en dehors de Frame, je fais des choses pour moi. Si quelque chose m'enthousiasme et dure un certain temps, je le fais. Si tu perds l'intérêt pour le projet rapidement, c'est que ce n'était pas un bon projet au départ. Après, si c'est une marque, il faut regarder s'il y a une opportunité, si c'est réaliste et qu'est-ce qui est réalisable. Exactement ce que tu as fait pour Frame. Oui, en quelque sorte. Mais encore une fois, ça a démarré comme un rêve, quelque chose d'excitant. Et après, c'est devenu un business viable. Et puis après, bien sûr, les demandes changent, ainsi que les défis et les opportunités. C'est un changement constant, des mises à jour constantes. Et il faut toujours essayer de mieux faire. Et en fin de compte, je veux faire des choses dont je suis fier. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être fier de ce qu'on fait avec Frame et l'exécution créative de l'entreprise. Et tu es fier de Frame? Je suis très enthousiaste de voir vers où on se dirige et je suis très fier de la façon dont nous avons été capables d'y arriver. Je suis fier de ce qu'entreprend l'équipe. On a aussi deux nouvelles boutiques, des concept stores, j'en suis fier aussi, ainsi que certaines personnes qu'on a embauchées. Mais c'est un marathon. J'ai un ami, Michael Schiller, le fondateur de Acne, que je respecte énormément, qui m'a dit quand on a fondé Frame, parce qu'il me connaît, il sait que je suis publicitaire et que je suis hyperactif, il m'a dit « Tu es un très bon sprinteur, mais est-ce que tu es prêt pour un marathon ?» Parce que gérer une marque, c'est comme un marathon. Et il avait raison. Avec l'agence, c'était client après client, tu enchaînes. Mais avec une marque, tu restes, tu construis ta maison en quelque sorte. Et si tu développes une boutique qui n'est pas belle ou correcte, elle ne s'en va pas. C'est sur la durée. Et il y a plein de défis et d'opportunités. Mais bizarrement, je n'ai jamais été aussi excité par Frame que je ne le suis maintenant. Et les débuts étaient très stimulants pourtant. Je suis très heureux de la position dans laquelle nous sommes avec Frame, son équipe et Nicolas Dreyfus en tant que PDG. C'est un partenaire français incroyable. Tu n'as pas répondu à ma question sur ta motivation. Parce que ce qui est étonnant avec ta carrière, c'est que tout paraît très ambitieux, très grand. Est-ce que tu penses avoir été assez ambitieux ou pas assez?
Yeah, c'est une bonne question.
C'est une bonne question. Quand j'ai été débloqué, entre guillemets, à l'adolescence, je suis devenu ambitieux, mais je n'avais pas de grandes aspirations. J'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise comment rêver et jusqu'où je pouvais aller. Du fait de mes origines, trouver un travail, c'était déjà un exploit. Je me souviens, quand j'ai été embauché par Tyler chez Wink, je me suis dit que c'était bon, Coupe du Monde, tu vois. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une liste de tout ce que je voulais accomplir. Et à 25 ans, j'avais déjà tout accompli. Avoir sa propre agence était le but ultime. Et du coup, j'ai fait une petite crise après parce que je ne pouvais plus rêver plus grand. J'aurais aimé que quelqu'un me dise tout ce qui était possible si je travaillais dur et restais concentré. Mais travailler avec Jens a beaucoup aidé aussi parce qu'il dégage une énergie et une motivation extraordinaires. Et on a beaucoup en commun, on est né la même année, il faisait aussi du skateboard, et ce genre de partenariat est extrêmement important en fonction de ta personnalité, mais je pense que ça a été un facteur assez important pour moi. Si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est de trouver un partenaire qui soit très bon là où tu es très mauvais. Il ne faut pas croire qu'on sait tout, ce n'est pas très productif. Il faut laisser son ego à la porte et savoir que ce n'est pas grave de partager, de collaborer. Mais c'est mon tempérament et tout le monde est différent. Mais pour ma motivation, je sais pas, je pense que je voulais atteindre quelque chose, avoir des expériences et voir de nouvelles choses. Je m'ennuie très facilement. Mais tu as eu une vie exaltante. Oui, ça a été plein de rebondissements. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Je sais que ça n'irait pas aux gens avec qui j'ai grandi, par exemple. Je suis sûr qu'ils sont tout aussi heureux que moi. On peut être heureux avec un travail traditionnel. Moi, non. Et je pense que eux non plus ne peuvent pas faire ce que je fais. Ils détesteraient ça. Mes parents, par exemple, c'est juste ma personnalité. C'est une bénédiction ainsi qu'une malédiction. Et quelle est la destination finale ? L'au-delà. Non, mais quelle est ta vision à long terme ? J'ai pas de vision à long terme. J'essaye d'évoluer, mais c'est fluctuant. Après, la réponse facile, c'est que je veux être heureux avec ma famille et évoluer avec eux. J'ai la chance d'avoir une famille formidable et un bon système de support. Et juste avoir cette sorte de développement personnel et privé où tes enfants sont en bonne santé et tout le monde progresse, avoir de bonnes relations familiales, ce que j'ai la chance d'avoir. Et tout ça demande du travail.
I'm very lucky to have, which also takes work, for sure. And then in a creative capacity.
Après, pour ce qui est du professionnel et du créatif, je pense qu'on a chacun des étapes ou des chapitres dans nos vies. Dans la vingtaine, on apprend le métier, on développe la base et on travaille très dur. Dans la trentaine, on en récolte les fruits et on étend la base. Et peut-être que dans la quarantaine, on a plus d'options, mais ce n'est pas une certitude scientifique, c'est plus une idée générale. Et pour ma part, je réfléchis à mon évolution pour la cinquantaine, la soixantaine, peut-être même après, si je tiens encore jusque-là, et je l'espère. Donc c'est juste pour ne pas être surpris.
Et c'est aussi important d'y réfléchir parce qu'il y a pas mal d'agisme dans ce secteur et il faut que je continue d'évoluer. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas être le gars de l'agence de pub à 40 ans parce que c'est un secteur de jeunes et je ne veux pas non plus être directeur artistique de Frame à 50 ans. Il faudra trouver d'autres possibilités. Donc, mon ambition, c'est d'évoluer en permanence. Et je fais d'autres choses. J'investis dans certaines entreprises et j'essaye de les aider. Et j'essaie aussi d'assouvir ma créativité personnelle en faisant un peu de sculpture et de mobilier pour moi. Et peut-être que personne ne les verra jamais. Mais c'est pour moi et c'est gratifiant. Ce qui est un luxe. Mais je ne sais pas où ça va me mener. Pour l'instant, je me concentre pour faire de Frame quelque chose dont je suis fier et que la marque reste pertinente pour nos clients. Aussi simple que ça. Je veux mener la chose à bout. Et après, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer dans une autre marque de vêtements, par exemple. C'était le bon moment pour celle-là, mais je ne le referai pas aujourd'hui. Impossible. Pourquoi tu ne te lancerais pas dans la mode aujourd'hui? Non, je pense que le marché est différent. Après, je peux aider quelqu'un qui souhaite le faire. Il n'y a pas de mal à vouloir se lancer dans l'industrie de la mode. Mais pour pouvoir développer une marque au niveau où on est aujourd'hui, il faut être intégré dans une certaine culture et être d'un certain âge. Aujourd'hui, ma vie, c'est mon fils de 6 ans, mes belles-filles de 18 et 24 ans. J'emmène les enfants à l'école, je ne suis pas en vadrouille. Quand on a lancé Frame, j'étais tout le temps en séance photo, la marque c'était le jean des top modèles, c'était mon environnement. On avait Industry Magazine, c'était un contexte différent. Après, je ne sais pas, j'aime Frame. Ok, on va approfondir sur Frame. On a déjà parlé de la genèse avec une seule paire de jeans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est une marque assez importante maintenant. Non, on n'est pas une grande marque. On a été évalué, je crois, un petit peu en dessous de 200 millions de dollars. On a 15 magasins, surtout aux États-Unis, et 2 à Londres. Qui est votre compétiteur principal? Quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui et je ne sais jamais comment répondre. Et je n'en veux pas non plus, alors ça dépend aussi. Je vais poser la question différemment. Quel est votre positionnement? C'est une bonne question, parce que l'industrie a tendance à te mettre dans une case. J'ai jamais compris ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on nous a classifié marque denim de luxe sans que je sache que ça existe. Et aux États-Unis, on est devenu une marque de mode contemporaine. Et je n'ai jamais vraiment compris ça. Et ce n'est pas comme ça que je nous considérais. Dans quelle catégorie t'as mis le bon marché, par exemple? Marque de mode contemporaine. Mais je ne veux pas être confiné dans une case. C'est comme ma personnalité, je ne veux pas être confiné. Pareil pour les séances photos, si je veux le faire, je le fais. Les meubles, c'est pareil. Si les gens me disent que je ne devrais pas en fabriquer, ben, peu importe. Quels ont été les différents moments clés? Il y a 11 ans, vous démarrez avec une paire de jeans. Bon, vous aviez beaucoup d'atouts, le magazine, l'agence. Mais comment on passe d'un seul jean à une valorisation à 200 millions?
You make $200 million, you know, 10 years after.
Eh bien, aujourd'hui, on vend plus de prêt-à-porter que de jeans. Personne ne semble le savoir, mais c'est vrai. Je pense que c'est important de surfer la vague d'élan pour évoluer vers l'étape d'après. Si on stagne, cet élan se dissipe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Par exemple, nous, on a pris notre élan en vendant des jeans à des grossistes et des grands magasins. Et avec cet élan, on a lancé nos propres magasins de prêt-à-porter. Si on n'avait pas profité de cela, l'élan se serait dissipé. Et c'est ça que je veux dire quand je parle d'évolution constante. Par exemple, on s'est beaucoup développé en Amérique, on a plus de magasins, une bonne présence de commerce en ligne. Maintenant, on peut prendre cet élan et se développer en Europe et en Asie. Ce qu'on n'a pas beaucoup fait pour l'instant, c'est le prochain chapitre. Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? L'intelligence artificielle. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu fais avec? Beaucoup de choses. C'est une révolution pour toi? Totalement. Comment tu l'utilises quotidiennement? Je l'utilise beaucoup. J'ai commencé quand DALL-E est devenu disponible au public à l'automne 2022. Après, je ne peux pas vraiment philosopher sur l'intégration des images par l'IA. Est-ce que ça va sauver ou détruire le monde? Je ne sais pas. Je laisse ça à d'autres. J'en ai une utilisation très basique, mais en tant que directeur artistique, je trouve que c'est extraordinaire. C'est comme si j'étais Iron Man. Et je pense que beaucoup de gens ne savent pas comment l'utiliser, et du coup, ils pensent que c'est inutile. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Les résultats que j'obtiens avec l'IA sont les mêmes que j'obtiens depuis des années. Ça a toujours été le gars avec le plus de références, de livres et de magazines qui avait le meilleur portfolio, le meilleur moodboard et les meilleures idées à ajouter à un projet. Pour ma part, j'entraîne mon intelligence artificielle pour obtenir plus d'idées originales pour mon moodboard. Et ce n'est pas automatique. Il faut que je rentre plein de données encore et encore pour obtenir un JPEG, essentiellement, que j'aurais pu faire sur 3D ou Photoshop Camping, ou en dessinant si j'avais été bon en dessin. En fait, c'est pour obtenir quelque chose de physique. Donc, par exemple, pour notre boutique à Malibu, j'ai conçu les meubles avec l'IA. Mais sans les artisans qui peuvent les fabriquer, c'est juste un JPEG sans valeur. Mais être capable de leur montrer ce qu'il faut faire, c'est très précieux. Mais j'ai encore besoin de l'aide de nos merveilleux architectes et des gens qui peuvent construire tout ça. Il faut choisir les matériaux et les proportions et tout, bien sûr. Mais c'est une bonne base. Je pouvais faire tout ça avant, mais ça prenait beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Je travaille en ce moment sur un livre, sur des objets de désir qui n'ont jamais été fabriqués, des milliers d'objets que j'ai fait avec l'IA depuis 2 ans. Et je trouve ça fascinant, encore une fois. Mes besoins créatifs et mon hyperactivité sont très satisfaits. C'est visuellement très gratifiant pour moi de pouvoir créer autant. Je vais te donner un exemple. Quelqu'un m'a montré la photo générée par l'IA du pape en doudoune. On aurait pu faire ça il y a 20 ans sur Photoshop. C'est juste une idée. Et maintenant, tout le monde a accès à ça. C'est comme aujourd'hui, tout le monde est photographe grâce à l'iPhone. Mais ce n'est pas l'outil, c'est ce que tu choisis de mettre devant la caméra. Comme Jürgen Teller, un excellent photographe qui shoot tout avec l'iPhone, mais tu ne peux pas être aussi doué que lui, et moi non plus. Il photographie tout avec l'iPhone maintenant? C'est ce que j'ai entendu, mais ce n'est pas important, c'est bien ce que je dis. Beaucoup de gens me demandent quelle caméra j'utilise, ça n'a pas d'importance. J'utilise plein d'appareils photo différents. J'ai un Contax G2, j'ai utilisé l'iPhone, un Canon, un Hasselblad, rien de cela n'a d'importance.
C'est ce que tu mets devant la caméra qui est important, ton goût, ton opinion, ou la consistance de ton expression créative, ou juste ton idée. Et pour l'IA, c'est pareil. Les visuels que j'ai créés sont très personnels. Si c'était toi qui le faisais, ce serait très différent. Tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, je veux créer un sofa pour ma boutique. Qu'est-ce que tu rentres dans la machine? Ça dépend de plein de choses. Par exemple, pour la boutique Frame à Malibu, il y a une table en pierre et j'ai entraîné des modèles d'IA sur des visuels spécifiques. Et puis après, j'ai enchaîné sur des recherches sur cette pierre. Et puis après, j'approfondis avec du texte encore et encore pour obtenir ce que je veux. Ça peut être une table brutaliste basée sur ce matériau avec une certaine référence de couleur. Et je change encore et encore. Donc la table qu'on a obtenue est peut-être la 500e itération. Ça prend en général autant d'essais? Au moins, oui. Et je suis très content de cette table, elle est très belle. Et je pense qu'elle est plus unique que si on avait donné un mood board ou quelques références à un fabricant de meubles ou à un artiste. J'ai fait un autre projet, j'ai une maison de campagne en Angleterre, et parfois j'achète des petites céramiques basiques qu'on trouve localement à Wiltshire. Je les achète à bas prix dans ces petits antiquaires. Donc j'ai pris des photos de ces céramiques et j'ai entraîné l'IA avec ces photos parce que j'adore ces céramiques et puis je lui ai demandé de faire des sacs à main, pas plus de céramiques. Et ils sont super. Alors on ne fait pas de sacs à main et je ne vais pas commencer à faire des sacs à main, c'est juste pour m'amuser et exprimer ma créativité. Mais si j'étais un concepteur de sac à main ou une grande marque, c'est ce que je ferais. Je l'ai fait pour Frame pour Homme, on a pris un style vintage d'habits pour en faire la base d'une collection. J'ai tout pris en photo et j'ai entraîné mon modèle d'IA pour en faire plusieurs variations de taille et de proportion. Alors, je ne pense pas qu'on puisse encore appliquer cette méthode correctement, mais c'est un exercice intéressant. Quel modèle tu utilises? Parce qu'on connaît tous ChatGPT, DALL-E, mais on aimerait avoir accès au tien. Mais tu peux, ça s'appelle runway.ma. D'ailleurs, tu devrais interviewer le créateur, Cristobal. Et c'est accessible à tous? Exactement. Mais c'est mon choix parce que ça se développe tellement vite qu'il y a plein d'autres alternatives. Même malgré mon travail, je fais ça la nuit, mais l'IA peut travailler pendant que tu dors, ce qui est génial. Et j'adore ce qu'ils ont fait à Runway. J'ai eu le plaisir de rencontrer le fondateur, Cristobal, qui vient du Venezuela. On déjeune parfois ensemble. Et ce qu'il s'apprête à faire est juste incroyable, notamment parce qu'il est plus artiste que codeur. Il a travaillé pour Tish, par exemple. C'est donc plus adapté à notre monde, c'est plus sensible. On n'a pas besoin de savoir coder. Je peux créer des modèles spécifiques qui ont bien fonctionné pour moi, mais tout le monde a des besoins différents. Mais je me suis mis en tête d'apprendre et d'approfondir mes connaissances. Et j'ai la chance et le plaisir de parler avec Cristobal et d'en apprendre plus. Je pense que c'est intéressant et très important d'accepter et d'accueillir la nouveauté dans tout. Comment tu fais ça? Comment tu apprends de nouvelles choses? Il faut être curieux. Si tu es créatif et que tu n'es pas curieux, c'est fini. Il faut toujours penser qu'on n'a rien fait et qu'il faut continuer. Si tu penses que tu y es arrivé, c'est fini, t'es mort. Bon, ce n'est pas si simple, mais tu comprends. Mais tu es au Ritz, toi. Oui, mais il ne s'agit pas de ça. Oui, c'est un hôtel de luxe, mais je travaille beaucoup pour mes entreprises et j'ai conscience d'être privilégié. Mais ce n'est pas pour ça que je travaille. Quel est le but alors? Je veux avoir plus de résultats créatifs. Je veux faire de nouvelles choses. Par exemple, juste créer les meubles de la boutique, c'était très intéressant. Mais est-ce que tu vas les vendre à un moment ou c'est juste pour s'amuser et meubler la boutique? Oui, c'est plus de l'exploration. Pour l'instant, je flirte avec cette idée, j'apprends. Mais peut-être dans 5 ans, qui sait, pourquoi pas? J'ai appris que tu faisais quelques œuvres d'art aussi. Je crée quelques petits trucs pour moi, mais encore une fois, peut-être que personne ne les verra. J'apprends à me connaître un petit peu plus. Peut-être que j'en ferai quelque chose, peut-être pas. Si c'est un bon projet, pourquoi pas? En fait, je veux faire partie des choses qui m'intéressent. Tu peux être dans une position d'observateur, mais si je suis obsédé par la sculpture et l'art, je veux le faire moi-même et avoir mes propres idées. Il me semble que tu es très bon en interaction sociale. Non, mais c'est vrai, tu m'as invité dans ta chambre, je me sens à l'aise, tu parles avec tout le monde dans l'industrie de la mode. Comment tu fais pour établir des bonnes relations avec les gens? Je sais pas. J'aime les gens et je veux être généreux. Je n'aime pas quand les gens sont mal polis ou trop prétentieux. Il y a de la place pour tout le monde. Mais je pense que parce que j'ai beaucoup d'insécurité, je veux être apprécié. Comme beaucoup de personnes créatives d'ailleurs. Et si elles ne se comportent pas ainsi, c'est juste un mécanisme de défense. Je sais que quand je réagis mal à quelque chose, c'est à cause de mon insécurité. C'est pas une super réponse ni une très bonne caractéristique à avoir, mais je sais que je veux être apprécié. J'aime pas les conflits, mais je suis aussi très curieux. J'aime apprendre ce que font les gens et comment ils le font. Comme toi, tu as un podcast, donc j'imagine que tu es curieux, et je trouve ça très gratifiant, c'est comme un échange d'énergie. Je pense que je peux donner beaucoup d'énergie aussi. Et si je peux avoir un échange, c'est fantastique. Parfois, c'est crevant quand les gens ne donnent pas en retour. À quoi ressemblent tes journées? Comment tu fais pour gérer beaucoup de projets en même temps et ne pas être distrait? Mais je suis distrait, c'est mon état permanent, c'est ça le problème. Oui, mais je parle pour moi aussi, j'ai ce podcast que j'aimerais développer, j'ai ma marque de vêtements, je dois gérer ma famille, j'ai un bébé. Donc parfois ça fait beaucoup, surtout quand on veut tout bien faire et qu'on a beaucoup d'ambition pour tous ces projets. Comment tu fais pour rester concentré? Moi, tu vas me dire que tu ne l'es pas, j'imagine. Écoute, je dirais que c'est un peu la même chose tous les jours. Je me réveille et je prépare mon fils pour l'école. 5, 6, 7? Il a 6 ans. Ah, mais non, je ne me réveille pas à 5 heures. Je me réveille à 6h45. Je l'emmène à l'école et puis j'essaye de faire du sport parce que je suis plus vieux et c'est important. J'ai un entraîneur allemand qui s'appelle Dennis. Une heure tous les jours? Non, pas tous les jours, je serais bien plus en forme que ça. Non, 3-4 fois par semaine. Mais ça, c'est une journée typique. Et puis j'essaye soit de faire une journée interne, soit une journée externe. Donc dans mon bureau à New York où je vis, il n'y a pas de jour typique, mais j'essaie de faire une journée au bureau où je fais des réunions internes par Zoom.
Si c'est un day, j'essaie de rester dans l'office et faire mes réunions internes,
Ou alors je me concentre sur les rendez-vous externes, les entretiens d'embauche, ou des nouvelles opportunités ou connexions. Ça, c'est une journée typique. Et je finis la journée en dînant avec ma famille et puis on se pose sur Netflix. C'est plutôt banal. Et puis, il y a ces journées spéciales où on fait un photoshoot à Miami avec Gisèle, ou alors je suis à Los Angeles pour une semaine pour Proto, ou pour des réunions du conseil d'administration. Et tout ça me convient et ne me convient pas en même temps. Je pense que ce serait bien d'avoir plus de régularité dans mon emploi du temps, mais sans les journées spéciales, je m'ennuierais. Mais j'essaie de me bloquer du temps pour de la nouveauté, rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux talents, ou peu importe. Mais j'ai aussi besoin de temps non négligeable pour mes travaux créatifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en 30 minutes, ça peut prendre une ou deux journées, le temps que l'inspiration vienne. Donc c'est assez varié, mais j'essaye d'être plus rigoureux sur mon emploi du temps. Est-ce que tu as encore un rôle à Saturday? Non, on a tout vendu il y a plusieurs années maintenant. Donc toute ta semaine est dédiée à Frame. Oui, mon quotidien c'est Frame. Et puis il y a quelques trucs qui viennent s'ajouter de temps en temps par-ci par-là. Tu ne vas pas t'ennuyer si tu t'occupes que de Frame? Oui, mais non. Je ne suis toujours pas là de Frame. J'adore la marque, je suis bizarrement très consistant. Rappelle-toi, dans ma carrière, j'ai eu 3 jobs. J'ai travaillé pour Wink, pour Tyler. Jens et moi, on a lancé Saturday Group, c'était il y a longtemps déjà. Et puis, on a monté Frame. Et c'est tout. Donc, même s'il y a d'autres projets qui viennent s'ajouter à ça, je reste plutôt consistant et très loyal sur ces longs projets sur lesquels je ne m'ennuie pas facilement. Mais au sein d'un projet, il doit se passer de nouvelles choses pour pouvoir apporter de l'énergie à la marque et aux personnes impliquées. Et je pense qu'une partie de mon travail consiste à apporter cette énergie et de l'enthousiasme aux gens dans n'importe quelle équipe.
Ok. When you interview somebody,
quand tu passes un entretien d'embauche, quel genre de questions tu poses au candidat? Pour embaucher quelqu'un, en général, je demande comment on peut te rendre heureux et quels sont tes rêves. Ce sont les questions principales. Je ne pense pas être un bon intervieweur. Je viens d'en faire passer un aujourd'hui, d'ailleurs. Je me fiche un peu des CV. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une conversation avec la personne. Et je pense que c'est important de savoir s'ils souhaitent aussi réaliser nos rêves et nous rendre heureux. Si on peut s'accorder sur un but à atteindre et ce qu'on veut accomplir, ça donne en général une collaboration fructueuse. Qu'est-ce qui fait un bon produit? Il me semble que c'est une considération importante pour toi. Je pense qu'un bon produit doit avoir de l'intégrité et une opinion. Ce que j'imagine est assez similaire. Et parfois, elle doit apporter une solution qui peut être très différente. Elle peut être sexy ou avoir une certaine apparence ou une sensation particulière comme un iPhone. Je pense aussi que la valeur perçue est très importante. Pour Frame, par exemple, on a une marge de prix assez élastique. On peut avoir un jean à $250 avec de bons matériaux qui te font te sentir bien. C'est un bon retour sur investissement. Et puis, on a un trench coat en cuir pour $4,500, mais les autres marques sont à 20 000. On n'est pas aussi connu que l'autre marque, mais c'est un bon trench coat en cuir dont on vide les stocks constamment. Donc, il y a une bonne valeur perçue. Si le produit et la marque sont honnêtes, alors le produit est bon. Donc, bon produit, bonne marque. Pour revenir sur la photographie, tu es photographe. Je suis directeur artistique qui prend des photos. Oui, c'est différent. Alors, comment on prend une bonne photo? Comment on réalise une bonne image? Si on revient sur la campagne la plus récente avec Gisèle, quelle était l'idée derrière et quel a été le processus créatif? C'est une question intéressante. J'ai souvent pensé à ça pendant ma carrière. Parce qu'il y a différents scénarios. Si tu es directeur artistique, tu engages un photographe et tu espères que ça va bien rendre. Mais parfois, c'est mieux de le faire soi-même. Mais aussi, j'aime prendre des photos. C'est ma personnalité. Mais je suis un directeur artistique qui prend des photos, pas l'inverse. Par respect pour les photographes que je respecte énormément. Aussi parce que je n'ai pas une expression unique en photographie. Je suis plus une solution. Mais quand tu lances ta propre marque, le budget est serré. Mais bien sûr, si je pouvais travailler avec Steve Meisel tout le temps ou certains de mes héros, je le ferais. C'est juste pas possible. Donc ça devient une nécessité que j'aime bien. Mais si je n'ai appris qu'une seule chose, c'est que ce que tu mets devant la caméra est très important. On s'en fout de la caméra, même de la lumière quelque part. Il faut juste savoir tout réunir de façon optimale. Il faut que ce soit cohérent, les habits, le modèle, la coiffure, le maquillage. C'est un effort collectif. Si tu as une équipe qui est sur la même longueur d'onde, tu peux obtenir un résultat satisfaisant. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Quand j'étais jeune, j'espérais juste faire de mon mieux. Quel est le but de cette campagne? Pourquoi choisir Gisèle? Pourquoi ce setup? Pourquoi prendre la photo de cette façon? Attends-toi à une réponse très frustrante. Non, mais Gisèle était importante parce qu'elle incarne bien la femme frame. Je la connais depuis longtemps, c'est la deuxième campagne que je fais avec elle, donc c'était assez évident. Elle incarne ce que nous voulons défendre. Elle est forte, sexy, bien sûr très belle, mais elle est plus que ça. Ce n'est pas un modèle de 18 ans, c'est une femme que les autres femmes apprécient, je pense. Le truc, c'est que parce que je suis le photographe, le client et le directeur artistique, on peut avancer très vite et faire ce qu'on veut. Et ce jour-là, on a fait 4 setups différents, pas juste un. Donc on a construit un décor parce que je voulais que le jean soit sur un lit pour qu'on ait l'impression que c'est le petit copain qui ait pris la photo. Mais parce qu'on n'a pas une agence et donc beaucoup d'opinions différentes, on peut être très efficace. Donc si j'ai prévu une lumière qui ne me convient plus, je peux la changer sans demander la permission de personne. Et si ça plaît à Gisèle, boum, c'est fait, on change. La photo principale de la campagne, c'était la deuxième prise, et j'adore ça. Et j'ai appris de mes années d'expérience en tant que directeur artistique que le plus souvent, je me mettais en travers du projet. Maintenant, je sais que les meilleures photos se font quand j'envoie une boîte de vêtements à un photographe et que je lui dis « fais ce que tu veux et envoie-moi le résultat ». On a publié des livres comme ça avec Lachlan Bailey, Bruce Weber, Chris Coles. Je pense que quand tu veux travailler avec quelqu'un, c'est mieux de vouloir le faire parce qu'ils vont faire leur propre truc. Donc maintenant, si je travaille avec un photographe, je ne veux pas trop les contrôler. Je prends également des photos pour ma marque et j'ai un peu de mal avec la lumière. Est-ce que tu as quelques conseils? Parce que j'utilise le plus souvent de la lumière naturelle, mais j'aimerais bien utiliser plus de lumière studio. Quel est ton processus? Très simple. Tu engages un assistant électricien dont c'est le métier. Je n'ai aucune idée de comment mettre en place la lumière, même aujourd'hui. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de photographes. Le plus important, c'est d'être honnête.
Again, it's like to be honest with what it is.
Pour Frame, par exemple, je dis à l'équipe de ne pas compliquer le style. On n'a pas de robe de gala. S'ils font quelque chose sans moi, je leur dis de ne pas essayer de faire du Steven Meisel, de rester honnête. Et c'est peut-être mieux d'utiliser un Polaroid ou un iPhone. Ce sera mieux parce que c'est honnête. Je pense que quand les gens essayent de prétendre être ce qu'ils ne sont pas, le résultat est terrible. Même mes photos, je n'essaie pas de compliquer les choses. Je n'essaie pas d'éditer la photo. Tout reste très honnête. Si on tourne dans un studio, la lumière vient de devant, derrière ou sur le côté, on simplifie le processus. Je pense que c'est important de rester honnête, comme pour les produits. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça comme ça, parce que c'est un jean, et un jean reste un jean. Il ne faut pas essayer de prendre une photo d'un short. Il faut voir ce qu'on a en face de nous. Qu'est-ce qui est juste pour ce moment, pour cette femme? Si je prends une photo où elle est sur le lit pour qu'on ait l'impression que c'est le petit copain qui a pris la photo, ça, j'y crois. Mais si j'essaye de compliquer la coiffure et de faire un maquillage de taré pour une paire de jeans, je n'y crois plus. De toute façon, j'aime les choses simples. Ou alors, tu engages un bon assistant et un bon modèle. Et ça, on ne peut pas y couper, le bon modèle. Si tu devais tout recommencer aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? La même chose, je pense. J'ai eu une bonne vie. J'aurais peut-être travaillé un peu plus pour un directeur artistique, quelque chose d'un peu plus visuel, pour apprendre une rigueur un peu différente. J'ai dû beaucoup apprendre par moi-même et peut-être que j'aurais pu venir à New York un peu plus tôt. Vraiment? Pourquoi? Je pense que ça aurait été une bonne opportunité. Si on avait basé l'agence à New York plutôt qu'à Londres, on aurait pu être un peu plus rapide, un peu plus pertinent. Mais à part ça, rien, non. Bon, c'est pas une question marrante, mais je pense que c'est toujours très intéressant. S'il te restait 3 ans à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Oh mon Dieu, j'aurais une crise d'angoisse, j'imagine. Je me concentrerais sur les personnes que j'aime, bien sûr. Ma femme, Nathalie, mon fils, mes belles-filles. Mes parents, bien sûr, sont une priorité. Et puis, j'essaierai de survivre aux 3 ans.
Outlive the 3 years.
Yeah, of course.
Oh my God.
Désolé.
No, don't be sorry.
Non, ne t'excuse pas, je n'avais juste jamais pensé à ça. Je paniquerais probablement.
I would probably panic.
Yeah, yeah, it's panicking, of course.
Est-ce que, à part l'IA, tu utilises d'autres outils?
Except AI? AI, looks, it's been a very
I have a good one.
Oui, j'en ai un bon. Je fais beaucoup de recherches d'images pour tout. Il y a ce programme 4K Stogram que tu peux installer sur ton ordinateur qui te permet de sauvegarder des photos Instagram dans un dossier. Parce que c'est très difficile de copier les photos d'Instagram une par une. Donc pour moi, qui bouge beaucoup, si je suis dans un taxi et que j'ai besoin de rechercher des images de meubles, par exemple, ça me fait gagner du temps et je peux tout rechercher en 5 minutes. Et donc tout ce que j'ai sauvegardé me sert pour tous mes nouveaux projets. J'ai déjà toutes les images en place, et quand je commence un projet, je vais voir ce qui résonne ou me donne des idées. Donc je n'ai jamais besoin de commencer une recherche, tout est déjà là.
again when I think about this project or this idea, let's say. So I never start researching, it's always there. Mm. It's always ongoing.
Interesting.
This has been very good.
C'est très simple, mais ça me fait gagner des heures et des jours parfois.
Software, but it like it really like it saves you hours and days.
Of course.
And then you're constantly like activating like what was your taste.
Et on active constamment notre goût. Et j'ai plein de choses là-dedans, des mobiliers, de l'art. C'est très très cool. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu voudrais parler qu'on n'a pas encore abordé? Non, on a déjà beaucoup parlé, mais c'est sympa. Et ma dernière question traditionnelle, qui devrais-je inviter dans mon podcast que tu aimerais écouter? Cristobal de Runway, comme je l'ai déjà dit. Petite feinte là pour toi. Je te le présenterai. Je pense que ce qu'ils vont faire pour la vidéo devrait être très intéressant pour les auditeurs. Merci beaucoup, c'était super cool de pouvoir parler avec toi. Merci beaucoup, prends soin de toi. C'était une bonne séance psy. Je t'enverrai la facture.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.